Le mal, quelle que soit la forme qu'il peut prendre, est un élément mystérieux et douloureux. J'en parle souvent parce que c'est l'un des grands thèmes des Écritures. Quand il était sur terre, Jésus n'a pas du tout évité d'en parler, pour cause il est mort à cause du mal et pour le vaincre. Mais avant que cette victoire ne soit actualisée, Dieu permettra que dans un dernier sursaut, tout ce qui est malfaisant et destructeur règne suprême. Je continue à lire dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. « Il fut permis à la bête de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. » Verset 7. Ici encore, on a l'expression « Il fut permis à la bête » qui nous rappelle la souveraineté de Dieu. Il est vrai que, comme le prophétise Daniel, l'Antichrist dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquettera. Mais ce sera par sa puissance militaire, et les nations seront obligées de se soumettre à lui, mais en grinçant des dents. Ce sera l'absence de guerre, mais pas du tout la paix. Vers le milieu de la tribulation, l'Antichrist rompra son alliance avec Israël, et commettra l'abominable profanation dans le temple de Jérusalem. À cet endroit, il se proclamera lui-même Dieu. Après ce sacrilège, il pourchassera comme du vulgaire gibier tous ceux et celles qui refuseront de l'adorer, et plus précisément les croyants, et beaucoup mourront. Tous les pays coopéreront plus ou moins à cette chasse à l'homme, mais pas tous de gaieté de cœur. Les succès des persécutions de la bête ont été prophétisés par Daniel qui écrit « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. » Mais ce n'est pas parce que la roche tarpéienne que subiront les croyants est prophétisée qu'elle devient rose bonbon. Officiellement, l'Antichrist établit son autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. C'est la contrepartie des rachetés qui sont au ciel. En effet, l'apôtre Jean a dit qu'il a vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Je continue le texte. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Verset 8. Dans le Nouveau Testament, il est dit cette fois que les croyants ont leur nom écrit dans le livre de vie. Ce livre qui contient les noms des élus a été écrit avant que l'Éternel ne crée le ciel et la terre. Mais comme dans l'éternité le temps n'existe pas, ce registre a toujours existé. Quand on réfléchit aux implications de cette vérité, ça remue les méninges et on a de quoi se sentir mal à l'aise. Dans sa souveraineté, Dieu a choisi d'avance ceux qui partageraient sa gloire dans le ciel. C'est aussi simple et brutal que cela, sauf que l'autre côté de la pièce est que Dieu offre véritablement le salut à chaque être humain. Oui, mais ceux qui choisissent d'accepter Jésus-Christ découvrent ensuite que leur nom est dans le livre de vie. Oui, mais seuls ceux qui sont inscrits dans ce registre céleste sont sauvés. On tourne en rond et on peut se demander, comme entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui vient en premier, la liberté de l'homme de choisir ou le choix souverain de Dieu? Comme ces deux composantes appartiennent à des niveaux de logique différents, la réponse est hors de notre champ de raisonnement. L'apôtre Paul écrit que l'Antichrist usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Mais, contrairement aux non-croyants, les élus ne seront pas trompés par l'Antichrist et ne l'adoreront pas. Et pour ces raisons, ils seront persécutés et mis à mort sans pitié. Je continue le texte. Que celui qui a des oreilles écoute. Verset 9. Littéralement, si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Cette exhortation apparaît 16 fois dans le Nouveau Testament, dont 8 fois dans le livre de l'Apocalypse, et elle est adressée 7 fois aux églises d'Asie, à qui Jésus dit « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Ici, par contre, l'exhortation n'est pas suivie par « ce que l'Esprit dit aux églises ». Cette omission semble prouver, une fois de plus, que l'ensemble des croyants qui constituent l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, n'est plus sur terre, mais a été enlevée avant le début de la tribulation et se trouve donc désormais dans les cieux. Que celui qui a des oreilles écoute sert d'introduction à un proverbe qui conclut le passage et qui est « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. » Verset 10. Ce proverbe contient un enseignement pratique destiné aux croyants qui vivront sous la botte de l'Antéchrist quand il mènera ses campagnes d'extermination contre eux. Ils sont avertis d'avance qu'ils devront dépendre de la providence divine et l'accepter. La première phrase « Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité » est une citation du prophète Jérémie. Ceux qui, dans le plan souverain de Dieu, sont destinés à être emprisonnés, probablement par des dirigeants de provinces ou de pays qui ne partagent pas la brutalité expéditive de l'Antichrist, devront accepter leur nouvel état comme étant la volonté de Dieu pour eux sans chercher à se venger. Car si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Cette parole a été prononcée par Jésus quand il a dit à l'apôtre Pierre « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. » À cette occasion, Jésus confirmait le principe de la peine de mort pour meurtre énoncé dans le livre de la Genèse quand l'Éternel a dit à Noé et à ses fils « Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme, je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. » Ce principe s'applique autant à la police secrète de l'Antichrist qu'aux croyants de la tribulation qui voudraient se venger. Ils devront se conformer à l'exhortation qui dit « Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. C'est en agissant de la sorte que, écrit Jean, ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. En toutes circonstances, les croyants doivent suivre leur modèle Jésus-Christ. Injuriés, ils ne ripostaient pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, ils ne formulaient aucune menace, mais remettaient sa cause entre les mains du juste juge. J'avoue qu'il est difficile d'accepter les paroles de Jésus qui a dit « Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. » Cependant, pendant la tribulation, les croyants devront laisser Satan et les démons avoir leur heure et la bête monstrueuse de l'abîme commettre ses pires atrocités. Nous arrivons maintenant à une nouvelle phase de la vision de Jean, car l'apôtre va nous présenter un nouveau personnage, un maître de l'imposture, la bête qui monte de la terre, alias le faux prophète. Il fait partie de l'arsenal de Satan, dont les deux armes principales sont la tromperie et la violence. Jésus l'a d'ailleurs qualifié de « père du mensonge » et de « meurtrier ». Et l'apôtre Paul écrit qu'il se déguise en ange de lumière et ses émissaires en serviteurs de ce qui est juste. Les faux enseignants, ceux qui répandent des mensonges concernant Dieu, l'au-delà et le salut, sont légions de toutes les couleurs et il y en a pour tous les goûts. Ils sont souvent mentionnés dans l'Ancien Testament. certains par leur nom, comme Balaam. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus a déclaré « Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. » Et, parlant de la fin des temps, Jésus a dit que de faux Christs surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges, au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Et dans sa dernière épître, Jean écrit « Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. » Avec Satan qui joue le rôle de faux père et l'antéchrist qui est le faux Christ, le faux prophète est le faux esprit de Dieu et ensemble ils forment la fausse trinité, la trinité diabolique. Tandis que l'antéchrist sera avant tout un chef politique et militaire, il instituera aussi le culte de sa personne au-dessus de toutes les religions et se proclamera Dieu, une prétention que fera valoir son chef religieux, le faux prophète. Orateur de talent, il convaincra les habitants de la terre que l'Antichrist est le seul espoir de salut pour l'humanité. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 13. Ensuite, je vis une autre bête montée de la terre. Elle portait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Verset 11. Cette autre bête est une personne au même titre que la première bête, car toutes deux finissent dans l'étang de feu, ce qui n'aurait guère de sens s'il s'agissait d'idéologie, d'institution ou de gouvernement. Alors que la première bête est effrayante, féroce, sauvage et grotesque, un politicien opportuniste qui profite du chaos pour prendre le pouvoir, la seconde bête est issue de la société intellectuelle, civilisée, cultivée et ordonnée. C'est une figure connue, un grand chef religieux respecté dans le monde, quelqu'un de séduisant, persuasif, et qui apparaît doux comme un agneau. Mais il est l'image même du loup déguisé puisqu'il parle comme un dragon, ce qui est plutôt bizarre pour un agneau. Je continue le texte. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Verset 12. Les deux bêtes sont au service de Satan et marchent main dans la main. La seconde encourage les habitants de la terre à vénérer la première comme leur sauveur ressuscité, une imposture et une idolâtrie absurdes. Pourtant, le monde dans son ensemble gobera ses mensonges tout crus. Je continue. La seconde bête accomplissait des signes miraculeux faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Verset 13. Ces signes seront de vrais miracles, tout comme ceux qu'ont fait les deux témoins descendus du ciel avant d'être assassinés. D'habitude, c'est l'Éternel qui fait tomber le feu du ciel, mais c'était aussi une spécialité de son prophète Élie, qui sera probablement l'un des deux témoins. Ici, c'est la seconde bête qui, par la puissance du diable, fait ses miracles. Le temps du verbe suggère qu'elle répète ce prodige et chaque fois c'est bien sûr pour authentifier un message qu'elle prétend d'origine divine. Même si c'est très dérangeant, on est obligé de reconnaître que Satan possède une puissance de feu extraordinaire, ce qui apparaît bien dans le livre de Job. Il a évidemment reçu ses pouvoirs surnaturels quand il a été créé. Mais, assez curieusement, il ne les a pas perdus après sa rébellion contre Dieu. Les prodiges spectaculaires accomplis par la deuxième bête lèvent tous les doutes qui auraient pu subsister et convainquent les derniers sceptiques que la première bête est véritablement le Messie et le Sauveur du monde. Les pouvoirs des deux bêtes sont surprenants, mais ils ont été prophétisés par Jésus, puis par l'apôtre Paul qui écrit que l'apparition de l'Antichrist se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Les incrédules, ceux qui ne veulent pas connaître la vérité, n'ont pas d'autres options que de croire aux mensonges. Ils accepteront donc avec empressement tout ce que dira le faux prophète. On a un exemple parlant de ce genre de tromperie diabolique dans le livre des Actes où Luc écrit que depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. « Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » Je continue le texte de l'Apocalypse. « Par les signes miraculeux qu'il fut donné à la seconde bête d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. » Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Verset 14. C'est déjà la troisième fois que Jean mentionne la soi-disant résurrection de l'Antichrist, sans doute à cause de l'impact phénoménal qu'elle a produit dans le monde. Seuls les véritables croyants ne seront pas dupes. Le verbe grec traduit par « égarer » signifie « errer » et a donné « planète » en français. À cause des malheurs épouvantables qui frappent la Terre et ses habitants, ces derniers cherchent désespérément à comprendre et à leur échapper. Mais comme ils ont rejeté la bonne nouvelle de Jésus, ils acceptent sans sourciller les mensonges distillés par le faux prophète. En effet, l'apôtre Paul écrit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. La seconde bête réussit à égarer les habitants de la terre. Elle parvient à les ensorceler et à les impliquer dans son projet idolâtre, exactement comme Jésus l'a prédit. Soutenu par le faux prophète, l'Antichrist érigera une réplique de lui-même qui symbolisera sa divinité et sera l'objet d'un culte. Elle sera installée dans le temple de Jérusalem et il y en aura des copies un peu partout dans le monde qui serviront de sanctuaire où les gens iront pour lui rendre hommage. L'Antichrist lui-même viendra périodiquement s'asseoir dans le temple pour recevoir l'adoration qui ne revient qu'à l'Éternel seul. Et quand il ne sera pas présent, c'est son image qui sera adorée. Je continue le texte. Il fut même donné au faux prophète d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Le mot pour animer signifie souffle et non pas vie, une distinction importante à faire. Le faux prophète animera l'idole, représentant l'Antichrist, de manière à lui donner l'apparence de la vie. Aujourd'hui, on pratique la ventriloquie dans les temples païens orientaux pour faire parler les idoles et impressionner les fidèles. Ce que Jean relate pourrait être un démon qui parle ou une invention moderne, car avec les effets spéciaux de la robotique alliés à l'informatique, un tel subterfuge est facilement réalisable. Comme dans l'histoire de la statue de Nabuchodonosor, ceux qui n'adoreront pas la bête seront punis de mort. Bien entendu, ce sont essentiellement les Juifs et les croyants qui seront ainsi persécutés. Les martyrs que nous avons rencontrés précédemment proviennent de ces exécutions. Je continue le texte. La deuxième bête amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Verset 16. Le mot traduit par « signe » signifie « gravure ». Il désignait les effigies ou les noms des empereurs gravés sur les pièces de monnaie romaine. Dans le monde antique, de telles marques étaient courantes. Les esclaves, les soldats et les adeptes de certaines sectes religieuses étaient tatoués ainsi en signe d'appartenance à leur maître. Pour forcer les hommes à rendre un culte à la première bête, le faux prophète les obligera à porter une marque particulière comme signe d'allégeance. Plus loin, on apprend que les 144 000 juifs témoins portent, eux, le nom du Père et de l'agneau. L'estampille que mentionne Jean est donc une parodie du sceau de Dieu qui marque les croyants. Comme on le dit parfois, le diable est le singe de Dieu.